Première épître de Pierre, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, l'apôtre Pierre rédigea cette lettre alors qu'il se trouvait à Rome vers l'an 60 après Jésus-Christ, et elle fut adressée donc à un groupe de croyants qui vivaient dans les régions qui composent aujourd'hui l'actuelle Turquie, hein, le pays de la Turquie. Et dans cette épître, il aborde notamment donc le thème de la souffrance, des épreuves que les chrétiens vont subir ou subissent. Et il explique surtout la raison pour laquelle, même malgré les souffrances et les épreuves, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir la force d'affronter ces terribles moments. Alors oui, c'est un thème qui, au premier abord, peut susciter l'étonnement hein, de chrétiens aujourd'hui, de chrétiens occidentaux, dont beaucoup ont été influencés par des prédicateurs qui, en présentant l'Évangile, ont essentiellement mis l'emphase sur le fait que en Christ, ils auraient une vie merveilleuse, une vie sereine, faisant même croire à certains une vie sans lutte, sans difficulté, sans persécution, sans épreuve, sans opposition. Des fois, je me demande s'ils ont sérieusement vraiment lu les Évangiles, lu les Épîtres, et étudié ces choses en profondeur. Parce que oui, si l'Évangile promet effectivement une délivrance, c'est avant tout la délivrance par rapport à la condamnation du péché, hein, la condamnation éternelle. Mais avec ce salut, le chrétien, oui, peut bénéficier hein, de l'aide précieuse de l'Esprit Saint pour traverser les épreuves, des vérités bibliques pour nous fortifier dans notre vie spirituelle. Mais la parole de Dieu nous montre que la vie de ceux qui ont suivi l'Éternel, de ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus, n'a pas forcément été une vie de tout repos, que ce soit dans l'Ancien Testament, hein, on en parlait un petit peu avec David tout à l'heure, hein, par rapport au prophète Jérémie, hein, et tant d'autres hein, qui ont subi hein, des persécutions, des maltraitances, pour avoir prêché la parole de Dieu, pour avoir vécu une vie digne du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, si vous le rappelez, lui-même avait averti aussi ceux qui le suivaient que, eh bien, ce ne serait pas une vie hein, de tout repos. Bon, déjà, dans Matthieu chapitre 7, hein, versets 13 à 16, il nous invite à entrer par la porte qui est étroite, par un chemin qui est resserré. Donc, ça annonce déjà une difficulté. Ou quand il nous dit au chapitre 16 de ce même évangile que ben, si on veut suivre le Seigneur Jésus, eh bien il nous faut renoncer à nous-mêmes et nous charger de notre croix. Donc déjà, ça c'est indicatif que la vie en Christ n'est pas une vie de tout repos. il y a des sacrifices, il y a des difficultés, et même, c'est une vie où on ne va pas être forcément apprécié, aimé par le monde qui nous entoure. Hein, Jean chapitre 15, verset 18, hein, Jésus a dit, hein, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc c'est logique que si nous suivons comme maître celui que le monde déteste, il est logique de comprendre que nous-mêmes, nous n'allons pas être appréciés par le monde du fait que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Et donc les épreuves, les souffrances, les persécutions peuvent faire partie de notre vie. Et je dis bien peuvent, ce n'est pas une obligation de subir la persécution. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons nous attendre et nous préparer à ces choses. Et on ne devrait pas être surpris lorsque bien, nous faisons l'objet hein, de ces choses, ou ni même lorsque nos proches hein, subissent ces épreuves, ces difficultés. Mais au contraire, nous devrions être prêts à les affronter, même avec confiance. Hein, il y a un chant qu'on chante, qu'on a dans nos petits recueils, hein, s'il faut traverser le brûlant désert. Bah, qu'est-ce que ce chant nous rappelle, hein? Dieu, il sait le chemin d'avance. Donc, nous sommes en train de suivre Dieu qui connaît le chemin. Il dit ensuite, je suis plein de confiance. Alors, pourquoi est-ce qu'il est plein de confiance? Parce qu'il est en train de suivre Dieu. Il n'est pas en train de suivre sa propre logique et raisonnement ou sa propre appréciation des choses qui l'entourent. Mais le chant continue avec chaque jour de son secours. Donc, j'ai la parfaite assurance, hein, je suis plein de confiance. Donc ce matin, je vous invite à cela, d'être prêt à traverser le désert avec une pleine confiance. Et dans ce passage de la première épître de Pierre, parce qu'il écrit ces choses en sachant qu'il va y, à l'époque, il allait y avoir des persécutions de plus en plus fortes contre les chrétiens. Et donc par cette épître, il a cherché donc à encourager les chrétiens. Donc soyons prêts donc à traverser le désert avec une pleine confiance. Et dans ce chapitre premier, bien, Pierre nous parle de cette espérance vivante, n'est-ce pas? Et nous comprenons que cette espérance vivante, eh bien, c'est ce salut en Jésus-Christ. C'est les promesses à venir, les promesses assurées de ce que Dieu nous a, eh bien, sauvés, extirpés de la condamnation du péché, qui nous a inclus dans sa famille. Et donc, c'est une espérance qui est vivante et qui agit, et c'est ce dont Pierre parle dans ce passage. Ce que moi je trouvais intéressant, c'est que après avoir donc adressé cette épître donc aux chrétiens hein, du pont de la Galatie, etc., il a cette prière de bénédiction hein, pour eux que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et c'est intéressant parce que bon, il va parler de la persécution. Donc il prie pour eux quand même pour la grâce d'affronter, hein, de pouvoir affronter ces choses, mais aussi la paix au milieu de ce qu'ils allaient affronter. Et le premier appel que Pierre nous apporte ici, donc c'est celui hein, de cette espérance vivante. Et dès le verset 3, tout de suite, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve de la louange. C'est-à-dire que l'espérance vivante, lorsque nous comprenons ce que c'est que cette espérance vivante, elle suscite ce qu'on appelle la doxologie. Hein, tout de suite, hein, après cette adresse, eh bien, Pierre hein, s'engage dans cette doxologie. C'est l'expression verbale de l'adoration envers Dieu. C'est le fait de le glorifier pour sa personne, pour ses œuvres. Et en l'occurrence, Pierre il dit donc béni. Béni donc soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénir, ça signifie littéralement dire de bonnes choses, n'est-ce pas? Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous glorifions Dieu, lorsque nous apportons donc cette doxologie, c'est pour nous le fait de dire des bonnes choses au sujet de Dieu, comme s'il y avait de mauvaises choses à dire à son sujet. Mais c'est le fait donc de les exprimer. Hein, et de les exprimer donc en public ou même bon, seul à la maison, lorsqu'on en se tend seul avec le Seigneur. Mais ce mot qui est employé ici dans le grec, c'est eulogetos, qui signifie donc bénir. Et la composition de ce mot, c'est on a le préfixe eu qui veut dire donc bon, et logos qui est la parole, donc une bonne parole. Hein, et c'est de là, par exemple, en français, on a le mot eulogie, hein, lorsque il y a des funérailles, qu'il y a une personne qui fait un discours pour retracer la vie du défunt. Hein, cette eulogie, hein, on va dire de bonnes choses au sujet de cette personne qui est décédée. On a le mot éloge également qui vient, c'est la même chose, hein, c'est dire des bonnes choses au sujet d'une personne. Donc, Pierre, ici, il estime qu'il est essentiel pour nous. Lorsqu'on sait qu'on va passer par des moments difficiles, lorsqu'on sait que c'est une grande possibilité dans notre vie, eh bien, ce réflexe de commencer par louer Dieu, de dire les bonnes choses. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà, ça focalise notre attention sur lui et non plus sur nous-mêmes, non plus sur les choses qui se passent autour de nous. C'est pas que on les ignore royalement, hein, on va parler un peu de ça un peu plus tard. Mais c'est le fait que notre cœur, notre âme, notre esprit est tourné vers la louange de Dieu. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on va dire les bonnes choses de Dieu, qu'est-ce qu'on va chercher à dire? Eh bien, on va déjà parler de qui il est dans sa personne, dans son essence, donc le Dieu saint, juste, amour, hein, qui manifeste sa miséricorde, sa grâce. Et dans la mesure où, ben justement, les croyants auquel Pierre ici s'adressait, il faisait face à une persécution qui allait en grandissant, hein, qui était de plus en plus forte. Il dit vraiment, là, on devrait commencer par louer Dieu, concentrer notre esprit, notre âme sur Dieu. Est-ce que c'est vraiment là le réflexe que l'on a lorsque les choses vont mal dans notre vie, lorsque s'agitent les flots des diverses épreuves, est-ce que notre réflexe est de louer Dieu? Non, je crois que la plupart d'entre nous, hein, notre premier réflexe est ah! Ça va être de râler, n'est-ce pas? Ça va être de protester, de contester ce qui nous arrive. Oh, si nous pouvions vraiment avoir ce réflexe-là de nous tourner directement vers Dieu. Et pourtant, l'image que Dieu il nous donne de sa relation avec nous, c'est cette image d'un père qui est bon envers ses enfants, d'un père vers qui nous pouvons nous réfugier. Et pour moi, c'est cette image-là que ben, quand il y a un enfant, il y a quelque chose qui lui fait peur, quel est son premier réflexe? C'est de se tourner hein, vers ses parents, de trouver papa hein, lorsqu'il y a quelque chose qui leur fait peur, hein, qui sont dans la crainte au sujet de quelque chose, c'est d'aller vers notre père. Et donc même au milieu donc des afflictions, nous devons donc diriger nos regards vers Dieu, vers sa personne. Mais ici, Pierre, il met surtout l'emphase sur ce que Dieu il a accompli pour nous. Il parle donc de cette espérance vivante. Et quand nous, en tant que chrétiens, nous développons une compréhension, on va dire, amplifiée, plus grande de ce que c'est que cette espérance vivante, eh bien, on va avoir ce réflexe automatique de nous tourner vers Dieu hein, et de le glorifier hein, plutôt que de nous apitoyer sur nous-mêmes. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je me suis rappelé hein, de ce chant d'Alain Larrey au sujet de David, hein, lorsque sa vie était en danger, hein, lorsque la peur parfois le prenait. Hein, il dit, il chantait des cantiques. Il chantait des cantiques. Et il continue dans ce chant, hein, en nous mettant, nous, dans cette position maintenant, hein, de nous chanter des cantiques, de louer le Seigneur hein, par le chant, la musique. Hein, et ça doit être notre réflexe que de louer Dieu. Malheureusement, ce n'est pas la chose qui nous vient à l'esprit en premier lorsque viennent les difficultés, n'est-ce pas? Le roi David n'était pas le seul à se tourner vers l'adoration de Dieu au milieu de l'épreuve. Paul et Silas. Paul et Silas, qui avaient été injustement bien arrêtés, maltraités, hein, on peut dire même torturés, après avoir libéré cette jeune fille hein, qui était possédée par cet esprit de Python. Et quelle a été leur réaction lorsqu'ils ont été arrêtés? Ben, il n'y a rien qui nous est dit par rapport à leur réaction. Mais il nous est dit que vers le milieu de la nuit, hein, dans Actes chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient, chantaient les louanges de Dieu. Est-ce que on peut dire que ça, c'est la vérité à notre sujet. Que quand viennent les difficultés, viennent les injustices, viennent les épreuves, on prie et on loue le Seigneur. Or, si notre vie est réellement en Christ, comme on l'affirme, bien, nous devrions donc être prêts, déjà même à accepter qu'il y ait des épreuves, même prêts à subir des outrages pour son nom, hein, que Dieu soit glorifié par notre réaction au milieu de ces épreuves, de ces persécutions, et que même, hein, tout comme les premiers chrétiens, hein, dans Actes chapitre 5, lorsqu'ils avaient eux aussi été injustement arrêtés, hein, il nous est dit au chapitre 5, verset 41, que lorsque les apôtres se sont retirés du Sanhédrin qui leur avait défendu, hein, de prêcher au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont sortis de là joyeux. Comment ça joyeux? Comment être joyeux alors qu'ils viennent de subir une injustice? Ils ont été maltraités, injustement accusés, hein, et pourtant ils sont joyeux. Et la raison nous est dite dans ce même verset, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Est-ce qu'on a déjà pris cette décision? Est-ce que nous sommes passés par cette acceptation dans notre vie chrétienne que je suis prêt à subir l'injustice pour le nom de Jésus? Est-ce que je suis prêt à subir les outrages pour le nom de Jésus? Est-ce qu'on est vraiment prêt à le suivre jusqu'au bout? Est-ce qu'on a renoncé à nous-mêmes? Est-ce qu'on s'est chargé de notre croix pour le suivre? Ou est-ce que, quelque part, on veut juste choisir un peu ce qui nous plaît dans le christianisme et puis nous faire une bonne petite vie à partir de ça? Ça, c'est pas le christianisme. Ça, quelque part, c'est une forme d'idolâtrie parce que nous créons notre propre religion. Pierre, ici, leur rappelle que, oui, ils sont joyeux, mais il allait y avoir des souffrances, des épreuves diverses, qui seront limitées dans le temps, hein, pour un peu de temps. Alors, bien sûr, ce n'est pas chose aisée pour beaucoup d'entre nous, hein, de développer ce sens, hein, de notre vie par rapport au monde dans lequel nous vivons, par rapport à notre relation avec le Seigneur. Mais Pierre, ici, il appelle les chrétiens qui vivent dans ce monde hostile à regarder au-delà des épreuves, au-delà de la persécution, et de focaliser leur attention sur la louange, sur la gloire de Dieu, mais aussi, il parle d'un héritage éternel qui leur est réservé. Et quand le chrétien se focalise sur ces vérités, non pas que les choses disparaissent, mais on a une perspective, on va dire, élargie de notre vie ici-bas. Paul, dans Romains chapitre 8, versets 17 à 18, il nous rappelle ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et cette espérance vivante, c'est ça, c'est cette gloire à venir qui est basé sur le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et donc ces souffrances temporelles que nous pouvons et que certains connaissent dans ce monde en tant que chrétiens, nous devons les remettre dans leur case, si vous voulez, par rapport à ce que c'est au niveau de la perspective divine. Un temps limité qui, en comparaison avec l'éternité, on va dire, est presque inexistante, insignifiante, comparée à la gloire à venir, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas en train de nier le fait que les épreuves sont douloureuses. Les épreuves sont douloureuses. Elles amènent de la tristesse. Hein, Pierre, il en parle ici, hein, que vous soyez un peu triste pour un peu de temps, hein, vous soyez attristé. Mais notez que ça sert un objectif, n'est-ce pas? Et l'objectif, on en revient dans ce même verset, verset 6 et 7, que puisqu'il le faut, donc la nécessité, vous soyez attristés pour un peu de temps, hein, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, voilà si l'objectif est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Sommes-nous donc dans cette perspective d'accepter les épreuves, les difficultés, l'opposition, les persécutions pour le nom de Christ, en sachant que c'est ce qui va me permettre même de pouvoir louer Dieu d'une manière encore plus profonde. Ceux qui sont à Jésus-Christ possèdent donc cette espérance vivante. Et lorsque nous portons notre attention sur les vérités de la parole de Dieu, sur ce qu'il a accompli, sur ses promesses, et notamment concernant son salut, chose que l'on verra dans quelques instants, ça nous amène sans hésitation, eh bien, à proclamer les bienfaits de Dieu, à proclamer sa personne, en toute occasion, favorable ou non. Dans le psaume de David, le psaume 33, je me permets de vous lire les six premiers, les six versets, hein. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc il se donne cet ordre. Hein. Mon âme bénit, bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, c'est qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Malheureusement, ces vérités, nous les oublions trop facilement. Nous oublions ce même à quoi nous avons échappé par la seule miséricorde et grâce de Dieu. Parce que nous focalisons notre attention sur oui, des détails de notre vie ici-bas, en négligeant de voir ben, le tableau dans son entier. Mais en tournant nos regards vers Dieu, nous sommes immanquablement amenés donc à le glorifier, hein, plutôt que d'être obnubilés par les souffrances temporaires de notre vie. Alors même si il est bon, oui, de louer Dieu pour tout ceci d'un point de vue complètement humain, la raison essentielle que nous avons en tant que chrétiens, en tant que personnes, en tant que pécheurs, rachetés par la grâce de Dieu, eh bien, c'est cette espérance vivante, c'est-à-dire l'achèvement de notre salut. Hein, c'est-à-dire que la Bible nous enseigne que à partir du moment où une personne donc place sa foi en Jésus-Christ, hein, se repent de ses péchés, pour prie à Dieu pour le pardon de ses péchés, cette personne, elle est sauvée. Elle appartient à Dieu, elle est incluse dans sa famille, mais le salut, il faut voir un point de départ. C'est que nous sommes à ce moment-là déclarés justes hein, par Dieu, donc il n'y a plus de condamnation. Mais le salut, il y a une sorte de, si vous voulez, de progression. C'est-à-dire qu'à un moment, ce salut il va être complété et achevé. Et ce moment, c'est quand les chrétiens se retrouvent dans la présence du Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus lui-même reviendra pour prendre son Église, il y a cet achèvement qui va finir de compléter ce salut, c'est-à-dire que bah, notre âme est sauvée, notre esprit est renouvelé, mais notre corps à ce moment-là également sera glorifié par Dieu. Et c'est là toute cette espérance vivante, c'est de savoir ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il a promis qu'il va accomplir. Et donc si l'espérance vivante suscite la louange, la doxologie, la deuxième chose que nous devons noter, c'est que l'espérance vivante suscite la joie en toutes circonstances. Ah! Nous avons de quoi glorifier Dieu parce que notre salut suscite une joie qui ne dépend pas de nos circonstances, mais qui dépend du fait que Dieu est la vérité. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il promet, c'est la vérité. Et donc la joie du chrétien se trouve en Dieu. Et lorsqu'on comprend que on peut avoir, oui, certaines joies dans les circonstances de la vie, mais ces choses ne durent pas, elles sont éphémères. Notre joie en Dieu, c'est une joie qui est inépuisable, intarissable. C'est-à-dire qu'on a le choix en tant que chrétien quelque part de je veux établir ma joie en Dieu plutôt que d'établir ma joie dans les circonstances de ma vie. Et les circonstances de ma vie, ça peut être aussi, je choisis d'être joyeux en Dieu et ne pas poursuivre forcément cette joie, d'essayer de trouver cette joie dans une relation de couple, ou d'essayer de poursuivre cette joie dans une carrière professionnelle. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen d'avoir la joie dans ces domaines-là, mais on a ici le choix entre une source qui est intarissable, Dieu, ou de choisir, eh bien, notre joie dans des choses qui ne vont pas durer. Si nous recherchons donc notre joie ailleurs, on va être déçus. Mais si on se focalise à puiser notre joie en Dieu, en sa personne, en ce qu'il a accompli pour nous, ben là, cette joie, elle est réelle et elle est évidente. Et c'est cette joie-là qui permet, même au milieu des épreuves, de continuer dans la paix, dans la sérénité. Et comme Paul et Silas, même au milieu de l'épreuve, au milieu de l'emprisonnement, de louer, de prier Dieu. Mais on sait que c'est un choix à faire. Parce que la difficulté, c'est que notre chair, elle nous pousse à poursuivre les joies dans le monde, dans les choses éphémères. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il veut nous pousser à puiser notre joie en Dieu. Et ce n'est pas un concept qui est nouveau par rapport au Nouveau Testament. Le fait de nous réjouir en Dieu. Pareil dans les psaumes, psaume 97, verset 12, par exemple, il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Donc, la joie, elle est en Dieu. Et c'est ce que Paul reprend également dans son épître aux Philippiens, où plusieurs fois il nous dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit bien toujours dans le Seigneur, et il le répète. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que on a facilement tendance à rechercher la joie dans les choses éphémères, et quand ces choses sont fragilisées, quand ces choses disparaissent, où donc est passée la joie? Et voilà pourquoi Paul, voilà pourquoi Dieu nous dit, puisez votre joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, Paul dit également dans Romains 12, 12. Donc si nous sommes au milieu des épreuves, et même s'il y a la souffrance parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes outragés pour le nom de Jésus-Christ, si nous sommes mis de côté, etc., nous devons nous réjouir. Un peu plus loin dans son épître, Pierre, au chapitre 4, verset 13, il nous dit donc aussi, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est-à-dire que souffrir en tant que chrétien, c'est ce qui nous permet de participer à la vie même de Christ. Christ a souffert, et on doit se réjouir du fait que nous pouvons souffrir pour le nom de Christ, et être associé à lui dans ce sens-là. Et ce verset 13, il le ponctue en disant, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est-à-dire l'aboutissement de tout cela, on en arrive toujours à cette joie, à cette allégresse. Nous avons donc en Christ cette espérance vivante, parce que Christ est mort en sacrifice pour nous, et qu'il est ressuscité. Et donc nous avons un salut qui nous rend joyeux. Parce que, il ne dépend pas de nous. Et on sait combien nous sommes imparfaits, combien il nous arrive de pécher, et de rater la cible, de faire ce qui déplaît au Seigneur. Et notre salut ne dépend pas de nous, heureusement. Il dépend de la grâce et de la miséricorde de Dieu, de son amour pour nous, de sa justice, de sa sainteté, et non pas de nous-mêmes. Et donc, nous avons bénéficié de cette miséricorde insondable, de cette grâce merveilleuse. Pierre, il nous dit que nous avons été régénérés. La régénération, c'est ce changement qui est produit par l'Esprit Saint lorsque une personne donc se repent de ses péchés, place à foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible appelle donc la nouvelle naissance. C'est à partir de ce moment-là que l'âme qui est spirituellement morte à cause du péché devient une âme qui est vivante grâce à la miséricorde de Dieu hein, par la foi d'une personne. Et donc, la justification, hein, quand on parle du salut, hein, la justification, c'est quand Dieu nous rend juste, il n'y a plus de condamnation. Et c'est ce qui change donc notre situation hein, en tant que pécheur devant Dieu. Mais la régénération, c'est quelque chose qui transforme. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus de la même âme pratiquement. C'est une vie nouvelle. C'est une résurrection spirituelle. Et donc, une âme morte en Christ devient vivante, devient éternellement vivante. Et donc, c'est cette régénération dont Pierre parle ici qui nous offre cette nouvelle vie, mais aussi cette nouvelle perspective, une nouvelle espérance. Parce que ce qui nous définissait autrefois n'est plus. Et c'est ça notre espérance vivante. Comme Paul le rappelle en Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Juste ça, ça devrait faire en sorte que notre joie dans notre vie, elle soit continuelle. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ, revenir à ce salut, cette grâce que nous avons bénéficié, parce qu'il n'y a plus cette condamnation. Trop souvent, je crois qu'on oublie ce à quoi nous avons échappé par la grâce de Dieu. Mais Paul, il nous rappelle aussi, hein, donc en 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez très bien ce verset, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là la régénération, c'est là la transformation. C'est pas que ça nous fait de nous automatiquement des personnes merveilleuses et extraordinaires, et on est des très bonnes personnes tout de suite. Mais d'un point de vue spirituel, notre âme est maintenant nouvelle. Et à partir du moment où elle est nouvelle, eh bien, nous pouvons faire des choses vraiment qui plaisent à Dieu et qui le glorifient. Mais tout cela ne repose pas sur les circonstances, n'est-ce pas? Tout cela ne repose pas sur mes œuvres à moi. Tout le processus de notre salut repose entièrement sur la perfection de Dieu et non pas sur nos œuvres imparfaites. Aussi, il était vrai que le salut puisse se perdre à cause de notre péché, nous serions malheureux, n'est-ce pas? Mais la Bible nous enseigne que le salut en Jésus-Christ, c'est un salut qui est affermi, c'est un salut qui ne repose pas sur nous, mais sur Dieu. Autant ce n'est pas mes œuvres qui vont me sauver, autant ce n'est pas mes mauvaises œuvres qui vont faire perdre mon salut. Parce qu'il est en Christ, ce salut, c'est lui qui l'accorde. Ce n'est pas nous qui avons fait vraiment quoi que ce soit pour obtenir cette grâce. Et ainsi, quand tout va bien, nous devons, oui, focaliser notre attention sur le Seigneur. Quand les choses vont mal, nous devons continuer de focaliser nos regards sur le Seigneur. Et l'image très forte que nous avons de cela, c'est cet événement qui... C'est Pierre qui écrit. Alors, c'est une bonne illustration, parce qu'il s'agit de la vie de Pierre, n'est-ce pas? Lorsqu'ils étaient, les disciples, sur cette barque, et qu'il y a eu cette tempête, et que, d'un coup, ils voient le Seigneur Jésus marcher sur l'eau. Hein, hier, on a parlé des miracles avec les ados, et puis on a mentionné cela. Et à un moment donné, donc, Pierre... Il interpelle le Seigneur, hein, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Et donc le Seigneur l'appelle et Pierre il commence à marcher sur l'eau, c'est un miracle, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Il regarde autour de lui, il voit la réalité de la tempête, il voit la réalité des vagues, et aussitôt il commence à sombrer. Et ça illustre tellement la vie de nombreux chrétiens lorsque... On est là, on dit « Waouh, oui, on peut faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. » Mais dès que viennent les tempêtes, les vagues, eh bien, on sombre. Pourquoi? Parce que notre attention n'est plus sur le Sauveur. Notre attention, elle est sur ces épreuves que nous subissons. Notez également que à l'issue de cet événement-là, bon, déjà le Seigneur les a un peu réprimandés, hein, hommes de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Mais tous ceux qui étaient là et qui ont vu et attesté de ces choses, ils en sont venus à adorer Jésus et à proclamer, tu es véritablement le Fils de Dieu. Si les épreuves, encore une fois, nous ramènent à pouvoir glorifier Dieu, nous devrions pouvoir accepter ces épreuves dans la joie et avec joie. Donc nous avons toutes les raisons d'être joyeux dans notre salut, parce que nous possédons un héritage qui est parfait, qui est inaltérable, qui est assuré par la puissance même de Dieu. Relisons les versets 4 et 5. Il nous dit ici que cet héritage, c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Oh, beaucoup de choses à dire là. Bon, déjà, hein, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec les héritages qu'on peut retrouver dans le système légal aux États-Unis, où un père peut déshériter son fils. Hein, si ce fils a mal agi, ou si le père il a une saute d'humeur et ça y est, lui, bon, on le raye et puis il reçoit rien. Non, l'héritage que Dieu ici accorde, c'est un héritage qui est attesté par sa propre personne. Il est saint, il est juste, et donc cet héritage, il est accordé. Et donc on a toutes les raisons d'être joyeux dans notre salut, car c'est la puissance et la perfection de Christ qui rendent ce salut inaltérable. Il ne peut pas changer. Là, il vous parle du fait que ce salut, donc qui ne peut pas se corrompre, se souiller, se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Alors, je veux juste faire une nuance ici. Là aussi, ce n'est pas comme une réservation hein, qu'on fait pour un restaurant, on appelle, on viendra à 19h, on sera 5, non. Le mot ici qui est employé dans le grec, c'est plutôt le mot garder. Et le mot garder qui est là dans le grec, c'est la notion d'avoir des gardes, d'avoir une garnison qui défende, qui surveille, hein, qui empêche toute agression et qui empêche hein, les ennemis de entrer et de subtiliser ce qui peut se trouver dans la garnison, par exemple. Donc nous, notre salut, il est gardé par la puissance, par la perfection de Christ, par la puissance du Dieu éternel, du Dieu saint, du Dieu immuable qui ne peut pas changer, du Dieu juste, du Dieu parfait, du Dieu fidèle. Et comme Paul le rappelle à Timothée, même si nous sommes infidèles, lui, Dieu, demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Donc notre salut, il est entièrement en Dieu. Et ça, moi, je me réjouis d'avoir un tel salut parce que je connais mes imperfections, je connais mes péchés, je sais pertinemment que je n'arriverai jamais moi-même à obtenir une telle grâce par mes œuvres. Et je me réjouis parce que Dieu, en me regardant moi en tant que un homme pécheur, Dieu, il m'a regardé avec amour. Il m'a regardé avec compassion. Et il a fait tout, il a tout mis en œuvre pour que je ne reste pas dans cette situation d'homme pécheur condamné éternellement, mais que je puisse, eh bien, avoir une âme renouvelée par Christ, que je puisse avoir cette vie nouvelle, que je puisse avoir cette garantie, cette assurance que peu importe ce qui va se passer dans ma vie, je suis assuré d'être dans la présence de Dieu. Non pas parce que moi je suis une bonne personne, parce que je fais des bonnes choses, parce que c'est Christ qui a tout accompli. Donc si l'épreuve de notre foi pour objectif premier de susciter de notre bouche la louange, la gloire, l'honneur de Dieu, c'est déjà une très bonne raison d'accepter les épreuves et les afflictions. Mais là n'est pas le seul objectif, n'est-ce pas? On n'en sort pas lésé. Pour autant, hein, à travers les épreuves, Jacques y reprend hein, ce thème des épreuves. Et Jacques lui-même nous dit aussi de regarder hein, aux diverses épreuves comme un sujet de joie complète. De joie complète. Pourquoi? Parce que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. C'est-à-dire que les épreuves, finalement, c'est ce qui me permet d'affirmer, de confirmer, de nous stabiliser dans notre foi, de nous amener à progresser dans notre foi. Et donc, si c'est vraiment quelque chose que je recherche, de pouvoir progresser, d'avoir une foi plus stable, hein, de pouvoir être un chrétien mature, eh bien, si une épreuve se déroule dans ma vie, si il y a ces difficultés, c'est le moment de pouvoir saisir cela avec joie, parce que l'aboutissement de ce que Christ veut faire à travers cela, c'est que nous devenions davantage comme lui. C'est une nécessité et c'est une décision. C'est une décision pour nous, hein, d'être dans la joie, de puiser notre joie en Christ, d'accepter les épreuves comme un sujet de joie complète. Oh, il y a des décisions dans notre vie qui amènent, hein, à ce que nous fassions des efforts, à ce qui amène à ce qu'il y ait des souffrances. Hein, par exemple, on ne perd pas du poids sans avoir décidé je vais perdre du poids. Et on ne va pas perdre du poids sans effort, on ne va pas perdre du poids sans souffrance, mais l'aboutissement, hein, qui est ma motivation à perdre du poids, l'aboutissement, ça va être un corps qui va être en meilleure santé, qui va être plus fonctionnel. Et c'est quasiment la même chose pour notre âme. Il faut fournir des efforts. Il faut accepter ses souffrances. Parce que l'aboutissement de cela, la gloire, l'honneur, la louange pour Dieu, mais aussi pour que nous, nous puissions être parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Donc au milieu de nos souffrances, cet effort est nécessaire, hein, de porter nos regards vers le Maître, de puiser notre joie en lui, dans le merveilleux salut que nous avons en lui, en nous rappelant l'aboutissement de tout ceci. Ainsi, on peut chanter « Te ressembler Jésus », bah, il faut accepter qu'il va falloir faire de gros efforts, de grands changements, des sacrifices, porter notre croix. Mais si nous ne voulons pas faire toutes ces choses-là, il va nous être extrêmement difficile, voire impossible, de ressembler au Seigneur. Laissez-moi juste terminer avec ces quelques pensées. Je sais que le temps est déjà passé, mais je voulais juste souligner ce que les versets 8 à 12 nous rappellent aussi, hein, par rapport à cette espérance vivante. Parce que lorsqu'on porte nos regards vers cette espérance vivante, oui, on est amené à louer Dieu, on est amené à contempler ce salut extraordinaire que nous avons. Mais on comprend que c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre cette grâce extraordinaire, encore une fois, que nous avons de la part de Dieu. Parce que dans ce passage, il nous dit que les prophètes, hein, qui ont prophétisé, touchant la grâce, hein, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Hein, d'où l'importance pour nous aussi de bien comprendre, d'étudier notre salut pour être encore plus émerveillé par ce salut, hein, d'être dans la joie et de glorifier Dieu. Mais on voit que donc ces personnes autrefois, ils avaient connaissance de ce qui allait se produire, mais ils ne comprenaient pas encore toutes ces choses. Ils ne voyaient pas comment toutes ces choses allaient pouvoir se mettre en place. Et ils recherchaient, hein, ils enquêtaient là-dessus, ils essayaient de comprendre ces choses-là. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous, hein, qu'ils en étaient les dispensateurs. Quelque part, quand je pense à ça, je ne vais pas dire que je me sens privilégié, mais je me sens béni de ce que je suis né dans cette époque où Dieu a mis en place cette nouvelle alliance, où il a mis en place le salut en Jésus-Christ, il a mis en place l'Église, nous avons sa parole. Je me sens, oui, quelque part béni, j'hésite à dire privilégié, mais parce que Dieu ne fait pas favoritisme, mais c'est quand même une bénédiction extraordinaire que nous avons par rapport à ceux qui nous ont précédés. L'espérance vivante que nous avons en Christ, elle est extraordinaire, et c'est ce qui nous amène aussi, hein, dans les versets 8, hein, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Qu'est-ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'aimer une personne que je n'ai jamais rencontrée physiquement? C'est le fait que Dieu nous a laissé sa parole, nous a laissé ce témoignage qui a traversé les siècles. Un témoignage que les prophètes, ils avaient prophétisé sur ces choses-là, elles ont été accomplies en Christ. Et aujourd'hui, je bénéficie de toutes ces choses-là. Je crois qu'on oublie aussi le fait que ce salut que nous avons en Jésus-Christ, il est quelque part extraordinaire par rapport même au salut de ceux qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi? Parce que nous l'aimons sans l'avoir vu. On croit en lui sans le voir encore. Rappelez-vous de ce que Jésus avait dit, Jean chapitre 20, verset 29. Hein, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, n'est-ce pas? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a une bénédiction supplémentaire pour ceux qui, eh bien, leur foi est basée sur ce que disent les Écritures et nous connaissons ainsi Christ. Sans l'avoir vu, nous croyons en lui et nous sommes bénis de ce fait-là. Pierre nous rappelle également la bénédiction donc, que nous avons donc, par rapport aux saints d'autrefois, hein, de ces prophètes qui ont parlé hein, de ce salut à venir et que bien trop souvent, malheureusement, nous négligeons parce que nous regardons aux circonstances, nous regardons aux épreuves et aux difficultés. Et on se rappelle encore une fois, cette grâce extraordinaire, il y en a qui nous l'enviaient. Il y en a qui l'ont attendu pendant des siècles sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu, sans voir ses prophéties s'accomplir. Alors c'est déjà chose extraordinaire hein, pour Siméon et Anne de voir ce bébé, de le tenir dans leurs mains et de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais nous avons une place bénie, quelque part privilégiée, parce que ces personnes qui désiraient hein, connaître ces choses-là, qui ont enquêté ces choses-là, n'ont pas vu ces choses s'accomplir. Nous avons le témoignage des personnes qui ont vu ces choses s'accomplir, et nous avons notre propre témoignage du salut en Jésus-Christ que nous avons et qui atteste de ces choses. Alors non seulement les prophètes d'autrefois ont passé leur vie à rechercher cette grâce, mais Pierre, il nous dit à la fin de ce passage, et j'avance un peu parce que, comme j'ai dit, l'heure tourne, il nous parle des anges qui eux-mêmes désirent plonger leur regard dans cela. Est-ce que vous comprenez que l'humanité fait l'objet de l'amour de Dieu? Et que Dieu a manifesté cet amour en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés, ressusciter des morts pour affirmer sa puissance sur la mort, sur le péché, et que nous puissions donc être retirés de cette condamnation éternelle, que ça, les anges, ça ne s'applique pas à eux. C'est-à-dire que les anges déchus, leur condamnation éternelle, elle est là. Les anges qui sont au ciel, qui ont continué de servir Dieu, hein, qui sont fidèles à Dieu, ils regardent à ce salut, mais c'est des choses que ils désirent plonger leur regard là-dedans. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et alors, avec toutes ces choses-là, si nous n'avons pas la joie en Christ, il va falloir qu'on passe plus de temps encore à approfondir cette doctrine du salut, n'est-ce pas? De toutes les personnes, de toutes les créatures, nous avons, nous, chrétiens nés de nouveau, appartenant au Seigneur, nous avons toutes les raisons de le glorifier et d'être joyeux, même dans l'affliction, dans les épreuves, les persécutions, parce que nous lui appartenons. Et ceux qui sont dans la main de Dieu, rien ne peut les retirer de là. Personne ne peut nous ravir de cette grâce. Parce qu'elle ne dépend pas des hommes. Elle dépend du Dieu saint, juste, parfait, qui ne ment pas, qui ne peut pas se renier, et que ce qu'il a dit, il le fait. Oh. Oui, nous n'aimons pas les difficultés, les souffrances et les épreuves. Mais ce que Dieu nous dit, c'est regardez à ces choses d'une manière différente. Ne les regardez plus hein, d'un regard de personne pécheresse et perdue, mais regardez-les d'un point de vue d'une personne pécheresse qui a été sauvée. Et regardez l'aboutissement de ce que ça peut produire lorsque nous acceptons ces choses et que nous fixons nos regards en Dieu, sur Christ, sur Dieu, et que nous cherchons à le glorifier par notre vie, peu importe les circonstances. On trouve cette joie. Et on trouve cette paix qui va avec, même dans les épreuves. Alors qu'est-ce que ça demande de nous? J'en reviens à la parole de Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Si nous n'avons pas pris cette décision-là dans notre vie, on a accepté Christ comme sauveur, mais on ne l'a pas forcément reconnu comme Seigneur dans notre vie, ou nous sommes encore hésitants à le suivre et à vivre pleinement pour lui, eh bien, il faut prendre cette décision-là. Je renonce à moi-même. Je ne suis pas en train de m'effacer moi. Je ne suis pas en train d'effacer la réalité des choses, des souffrances et des difficultés. Mais ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train de m'identifier à Christ. C'est ce à quoi nous sommes appelés. De nous identifier à lui, de le suivre. Alors on peut être de ceux qui, comme les apôtres, ont suivi jusqu'au bout. Ou on peut être de ceux qui, quand ils ont vu le prix à payer, le sacrifice à apporter hein, pour suivre Christ, ils sont partis malheureux, hein, comme le jeune homme riche, en quel le Seigneur a dit, va, vends, vends tous tes biens. En fait, débarrasse-toi de ce qui t'empêche vraiment de me suivre. Et c'est en aller tout triste, parce qu'il avait de grands biens et qu'il ne voulait pas céder cela pour suivre Christ. Prions.